de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Biden accueille le sommet des îles du Pacifique. Indonésie vise 3 médailles d'or en badminton aux Jeux asiatiques de Hangzhou. Chancelier allemand Olaf Scholz se rendra bientôt en Indonésie. Indonésie accueille le troisième groupe de travail régional sur la gestion de l'écrasement biologique. Ministre des Affaires étrangères Retno partage 3 efforts indonésiens dans la réhabilitation et la réintégration d'anciens terroristes en Indonésie. Ministre indonésienne des Affaires étrangères déclare que la réforme de la coopération multilatérale doit être la principale priorité. Indonésie souhaite que le partenariat avec la Chine se développe pour apporter prospérité et stabilité. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le président américain Joe Biden accueillera lundi 25 septembre le deuxième sommet des dirigeants des pays insulaires du Pacifique à la Maison-Blanche, dans ce qui est considéré comme un effort visant à endiguer l'influence de la Chine dans la région. Karine Jean-Pierre, attaché de presse de la Maison-Blanche, a déclaré dans un communiqué reçu mercredi 20 septembre par l'agence de presse Antara que la réunion au sommet des 18 pays membres du forum aurait lieu lundi et mardi 25-26 septembre. Lors du sommet, selon le communiqué, Biden réaffirmera l'engagement des États-Unis envers les priorités partagées dans la région avec les pays insulaires du Pacifique. En outre, les États-Unis renforceront leur coopération dans divers domaines, notamment la gestion de la crise climatique, la croissance économique et le renforcement de la coopération entre les communautés. Par ailleurs, le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, FIP, Henry Poulin, a déclaré après un événement à New York lundi 18 septembre qu'il espérait que la réunion aboutirait à des actions concrètes sur diverses questions, notamment le changement climatique et les efforts de la région pour se remettre de la pandémie de COVID-19. Le contingent indonésien vise à remporter 3 médailles d'or en badminton aux Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou, en Chine. Cependant, le chef de la division de développement et de réalisation du Conseil central de l'Association indonésienne de badminton, PPPBSI, Rioni Mainaki, au Centre national d'entraînement PBSI Cipayung à Jakarta Oriental, a déclaré mercredi 20 septembre qu'il espère que le contingent indonésien peut dépasser cet objectif. Les 3 médailles d'or devraient être remportées dans 3 épreuves, à savoir l'équipe masculine, le simple masculin et le double masculin. Selon Rioni, l'opportunité d'augmenter les résultats de 2 médailles d'or aux Jeux asiatiques Jakarta-Palembang 2018 pourrait se produire en Chine, à condition que les entraîneurs et les joueurs soient tous deux fortement motivés. Rioni a également expliqué que la sélection des membres de l'équipe indonésienne de badminton pour les Jeux asiatiques de 2022 a été effectuée sur la base de 2 indicateurs, à savoir le classement et la réussite. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le chancelier allemand Olaf Scholz se rendrait en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno après sa rencontre avec la délégation allemande en marge de la session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, mardi 19 septembre. Cité par l'agence de presse Antara, Retno ne peut pas confirmer quand la visite aura lieu car les deux parties se préparent encore pour la visite. Cependant, elle a déclaré que les préparatifs de la réunion des deux dirigeants avaient déjà commencé, y compris le projet de tenir une réunion complète des ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie et de l'Allemagne en Allemagne en novembre 2023. Si cela se réalise, cette visite sera la deuxième de Soch en Indonésie, après avoir rencontré le président Joko Widodo alors qu'il participait au sommet du G20 à Bali en novembre 2022. Le ministère indonésien des Transports, Kemenhub, a accueilli le troisième groupe de travail régional sur la gestion de l'encrassement biologique à Surabaya en Java oriental, du 20 au 22 septembre 2023, pour discuter et approuver les révisions de la stratégie régionale en guise de contributions et d'éclairage concernant les recommandations pour les prochaines étapes. Comme l'a déclaré le directeur du transport maritime et des affaires maritimes du ministère des Transports de la République d'Indonésie, Hartanto, dans un communiqué à Jakarta mercredi. Selon lui, cette activité s'est déroulée dans le cadre du projet de partenariat GloFooling initié par l'Organisation maritime internationale, OMI, en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en guise de suivi à la réunion du groupe de travail régional RTF sur l'encrassement biologique à 2 qui s'est tenu aux Philippines en novembre 2022. Hartanto a déclaré que le RTF, ou groupe de travail régional pour le développement d'une stratégie régionale concernant la gestion de l'encrassement biologique dans la mer d'Asie de l'Est, avait été formé dès la première réunion. Lors de la deuxième réunion, un examen du projet de stratégie régionale a été effectué et sa mise en œuvre a été discutée, y compris les initiatives liées à la gestion de l'encrassement biologique mise en œuvre par les pays ainsi que par le secteur privé. Il a réitéré l'engagement de l'Indonésie à accroître la protection de l'environnement maritime, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l'encrassement biologique et les espèces aquatiques envahissantes dans la mer. La troisième réunion du RTF sur le biofouling a réuni environ 70 participants composés de représentants de 11 pays impliqués dans le projet, dont Brunei Darussalam, le Cambodge, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, le Timor oriental et le Vietnam. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a assisté à la troisième session plénière ministérielle du Forum mondial contre le terrorisme en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, mercredi 20 septembre. Pour partager des expériences en matière de lutte contre le terrorisme et des gestions de la radicalisation en Indonésie, notamment en ce qui concerne les stratégies de réhabilitation et de réintégration des anciens terroristes. Retno Marsudi a expliqué que pour l'Indonésie, la réhabilitation et la réintégration doivent couvrir tous les aspects, non seulement se limiter aux anciens détenus terroristes, mais doivent également renforcer la résilience de la communauté et de l'environnement qui les accueille. La ministre Retno a mentionné trois efforts déployés par l'Indonésie en matière de réhabilitation et de réintégration, à savoir donner la priorité à une approche qui souligne l'importance du rôle et du soutien synergique entre le gouvernement et la communauté. Le deuxième effort consiste à garantir que les avancées technologiques et la recherche ne soient pas utilisées à mauvais escient. Le prochain effort consiste à continuer à garantir un environnement sûr pour conjurer l'extrémisme, y compris à travers des programmes d'éducation pour les femmes et les enfants. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné l'importance de faire de la réforme de la coopération multilatérale le principal programme pour atteindre les objectifs de développement durable. Ce point de vue est l'une des leçons importantes tirées au sommet du 43e sommet de l'ASEAN et du sommet du G20. Une autre leçon importante transmise par Retno Marsudi aux participants à la réunion ministérielle du groupe sur la gouvernance mondiale à New York, États-Unis, mercredi 20 septembre, heure locale, est le renforcement de la solidarité mutuelle. Selon elle, sans solidarité, les objectifs de développement durable ne seront pas réalisés en 2030. C'est pourquoi Retno a souligné l'importance pour tous les pays d'encourager la question de la solidarité sur diverses plateformes internationales et multilatérales. Le ministre a en outre déclaré que l'un des messages importants du 43e sommet de l'ASEAN et du sommet du G20 était que les pays du Sud avaient prouvé leur capacité à surmonter des situations difficiles et à aplanir leurs différends. En outre, la leçon apprise est l'importance d'intégrer les objectifs de développement durable sur toutes les plateformes. Le groupe de gouvernance mondiale est un groupe de 30 pays de petite et moyenne taille, membres du G20 et d'autres membres de l'ONU. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministre coordonnateur des Affaires économiques Erlangga Hartanto, a exprimé le souhait que le partenariat avec la Chine puisse continuer à se développer et apporter prospérité, stabilité et opportunité au peuple des deux pays. C'est ce qu'a déclaré Erlangga lors d'une réception pour la 74e anniversaire de la République populaire de Chine à Jakarta mercredi. Erlangga a réitéré l'importance de la coopération économique de l'Indonésie avec la Chine, marquée par les relations bilatérales étroites de longue date entre les deux pays. La Chine est également l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement de l'Indonésie. Il a ajouté que le gouvernement indonésien reste déterminé à favoriser les partenariats afin qu'ils continuent à produire des résultats mutuellement bénéfiques. Le gouvernement indonésien apprécie la Chine pour son soutien au vu de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique. En particulier lors de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023 et dans les efforts conjoints visant à parvenir à la prospérité et à la stabilité dans la région. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Cerita ke bonsoir, wasi lakai diplomatik yang pour le titre l'ambassade d'Indonésie à Bangkok présente la culture à travers la nuit culturelle indonésienne 2023. L'ambassade de la République d'Indonésie à Bangkok organise la nuit culturelle indonésienne 2023 pour présenter la richesse et le caractère unique de l'art et de la culture indonésienne au peuple thaïlandais. L'événement a eu lieu au bâtiment du théâtre Pik Ganesha Siam Square One Bangkok dimanche 17 septembre. Dans son allocution, l'ambassadeur Ahmad Budiman a déclaré que la nuit culturelle indonésienne 2023 sur le thème présentation de la culture indonésienne fait partie des activités promotionnelles intégrées annuelles et en cours de l'ambassade d'Indonésie à Bangkok, à savoir le forum sur le commerce, le tourisme, l'investissement et la culture TTICF qui s'est déroulé d'août à octobre. Comme indiqué dans un communiqué de l'ambassade d'Indonésie à Bangkok, reçu lundi par Antara, Rahmat Budiman a déclaré que l'interaction entre le peuple indonésien et thaïlandais a depuis longtemps créé une acculturation culturelle qui a créé de nombreuses similitudes au sein des différences, colorant ainsi les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Thaïlande sous divers aspects. Selon lui, la Nuit culturelle indonésienne 2023 peut accroître les connaissances et la compréhension du peuple thaïlandais concernant les diverses richesses des produits indonésiens, les opportunités d'investissement en Indonésie, la richesse et le caractère unique de l'art et de la culture ainsi que les attractions touristiques intéressantes. Pendant ce temps, le président du Parlement thaïlandais, Wan Muhammad Nur Mata, qui était l'invité d'honneur, a exprimé dans son discours son admiration pour la diversité des ethnies et des cultures, ainsi que pour les attractions touristiques intéressantes en Indonésie, qui constituent une attraction particulière. Cette soirée culturelle est remplie de spectacles musicaux, de chants et de danses de diverses régions d'Indonésie, interprétées par des représentants des régions d'Indonésie et de plusieurs universités d'Indonésie. Il y avait également deux chansons indonésiennes et thaïlandaises, à savoir Tapisahdo Ambon et Yarm Yen ou Love et Sandon, chantées directement par l'ambassadeur Rahmat Budiman et le groupe de musique de l'université Chulalongkorn. Le théâtre Pic Ganesha, d'une capacité de 1200 places, était rempli ce soir-là de spectateurs composés d'invités d'honneur du gouvernement thaïlandais, du corps diplomatique, d'hommes d'affaires d'indonésiens, de journalistes, d'anciens élèves boursiers indonésiens et d'amoureux de l'art et de la culture indonésienne. C'est auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Bonsoir, chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 21 septembre de Milan, la Journée internationale de la paix. Chaque année, à travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre 2001, l'Assemblée générale a désigné à l'unanimité cette journée comme une période de non-violence. La commémoration vise également à renforcer les idéaux de paix entre tous les pays du monde. Passons maintenant à l'événement du 21 septembre 1991, l'Arménie est devenue indépendante. Le 21 septembre 1991, le peuple arménien a organisé un référendum pour déclarer son indépendance de l'Union soviétique. En octobre 1991, Levon Terpetrosyan a été élu premier président d'Arménie après avoir obtenu 83% des voix. Quelques mois plus tard, la communauté internationale reconnaissait également officiellement la souveraineté du pays après l'effondrement de l'Union soviétique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 septembre 1999, le séisme a frappé Taïwan. Un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter a frappé Taïwan et provoqué plus de 2416 morts et plus de 11 000 blessés. Ce tremblement de terre était le deuxième tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire de Taïwan, après le tremblement de terre de Shinchiku Taichu en 1935. Le tremblement de terre de cette époque a tué environ 3200 personnes. Le tremblement de terre de Taïwan du 21 septembre 1999 s'est produit lorsque les gens attendaient le festival annuel d'automne. Pour commémorer le tremblement de terre, une école de Kung Fu a été transformée en musée du tremblement de terre. Le musée de tremblement de terre de Wufeng a ouvert pour la première fois le 13 février 2001. C'est juridique, c'est l'histoire du jour pour ce soir. Oh, oh, yeah.
membuatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Oh, merinding buluku. Oh, jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, nanti aku follow Twittermu. Oh, aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
C'est Jamie Luangten pour la rubrique suivante. Voici donc mon Indonésie, dont le titre est KLHK affirme que les gens doivent être aidés dans la gestion des mangroves pour investir dans le carbone. Le directeur général de la foresterie sociale et des partenariats Jang Romanto du ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, Bambang Suprianto, a déclaré que les populations doivent être aidées dans la gestion des mangroves pour investir dans le carbone. Selon lui, l'assistance communautaire est la clé pour débloquer des opportunités commerciales potentielles d'écotourisme grâce à l'utilisation des mangroves. Lors d'une discussion sur la gestion de l'écosystème du carbone bleu pour atteindre Follow Net Zero 2030 à Jakarta samedi, il a expliqué que la gestion des mangroves en tant que forêt sociale par la communauté est l'un des efforts visant à soutenir la feuille de route du puits net de foresterie et autres utilisations des terres ou Follow de l'Indonésie en 2030, où la séquestration ou le stockage du carbone est l'objectif principal de la réduction des émissions. En outre, la teneur en carbone de forêt de mangrove peut être 6 à 11 fois supérieure à celle des forêts terrestres. Il expliquait qu'il existe actuellement 3,31 millions d'hectares de forêts de mangrove en Indonésie, dont 422 000 hectares recoupent des communautés et 115 000 hectares d'entre eux ont été cédés sous forme de foresterie sociale. Par conséquent, Bambang Suprianto a déclaré qu'il y avait 5 choses liées aux questions de gouvernance pour atteindre le net zéro 2030. Premièrement, à savoir utiliser le capital existant aux forêts de mangrove. Deuxièmement, investir dans la communauté pour qu'elle veuille gérer l'écosystème des mangroves. Troisièmement, renforcer les programmes de mentorat à la gestion des mangroves pour la communauté, à la fois par le biais d'organisations gouvernementales, d'universitaires, du secteur privé et du gouvernement lui-même. Quatrièmement, réglementer le modèle de partenariat comme indiqué dans le règlement présidentiel numéro 28 de 2023 concernant la planification intégrée pour l'accélération de la gestion sociale de la foresterie qui stipule que le président non seulement confie le ministère de l'Environnement et des Forêts à la foresterie sociale, mais implique également des intersectoriels, en particulier les gouverneurs, les maires et les régions. La cinquième gouvernance, à savoir renforcer le système de foresterie sociale qui a été construit en augmentant la confiance du public et en garantissant que les investissements réalisés seront bénéfiques à long terme. Bambang Suprianto a déclaré que si le projet de foresterie sociale au Folonet Singh ne dure que 3 ans, le projet avec la communauté durera pour toujours, car la durabilité de l'entreprise garantira que la communauté obtiendra 3 fois les bénéfices, de sorte qu'elle maintiendra également la pérennité de son investissement. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kisah baru di jalan itu, aku menggoda dirimu. Naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Mengikuti sepedamu, dan kau pun tersenyum.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tards, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, lorsque vous visitez Balikpapan, vous devez essayer un plat culinaire spécial appelé pisang gapit. Comme son nom l'indique, ce plat culinaire typique de Balikpapan est à base de bananes, plus précisément du type kepok ou corne de banane. La banane est d'abord pincée, puis aplatie et grillée sur du charbon de bois. Parce que pendant la cuisson, les bananes doivent être pincées ou gapit en langue Banjar et Kutai. La collation est nommée par les locaux sous le nom de pisang gapit, ce qui signifie littéralement banane pincée ou serrée. Habituellement, les vendeurs de pisang gapit utilisent des pains spéciales pour aplatir les bananes et les brûler. La forme de la panse est similaire à celle d'un livre qui peut être ouvert et fermé. Ces auditeurs, une fois parfaitement grillées, les bananes ne peuvent pas être dégustées immédiatement. Elles doivent d'abord être coupées en morceaux et arrosées d'une sauce spéciale pour être dégustées. Cette sauce est composée d'un mélange de cassonade, de lait de coco, de fécule de maïs et de zaquier. Lorsqu'elles sont consommées, leur goût est vraiment appétissant, surtout si elles sont dégustées lorsque la pluie arrive avec une tasse de thé ou de café. Les vendeurs de pisang gapit peuvent facilement être trouvés à Balikpapan. Ils vendent généralement au bord de la route au coucher du soleil. Si vous souhaitez goûter au pisang gapit, essayez de venir sur la rive de la rivière Makam ou de l'autre côté du marché traditionnel de Kebun Sayur à Balikpapan. Vous y trouverez de nombreux vendeurs de pisang gapit d'affilée vendant la collation pour 5 000 rupiah à 10 000 rupiah par portion. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Sampai
Serge Littar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le festival de musique Java Blues Airwood. L'organisme de mise en œuvre de l'autorité de Borobudur organisera le festival de musique Java Blues Airwood 2023 du 23 et 24 septembre 2023 à Borobudur Highland, Purwokerjo, Java Central. Ce festival de musique blues est préparé avec un concept intimiste avec une combinaison de camping. Nia Nischaya, l'expert principal du tourisme et de l'économie créative d'Adiatma, a déclaré sur le thème « Découvrez votre aventure », le festival de musique Java Blues Airwood a lieu en combinant concerts de musique et activités de camping.
Tema Java Blues and Roots Music Festival ini adalah Discover Your Adventure.
Okay. Le thème du festival de musique Java Blues et Roots est de découvrir votre aventure. Ce concept vise bien sûr à renforcer l'écosystème musical et à encourager le mouvement des touristes dans la zone de l'agence de l'autorité de Borobudur en combinant un concert de musique avec des activités de camping dans les collines de Menoreh qui offriront une expérience touristique et profiter d'une musique unique et différente. Le festival de musique Java Blues Airwood devrait accueillir environ 300 jusqu'à 400 personnes. Le point culminant de l'événement a eu lieu du 23 septembre à partir 14h heure locale jusqu'au 24 septembre à 11h heure locale. Le directeur de finances des communications générales et publiques de l'organisme de gestion de l'autorité de Borobudur, M. Ramlan Kamarula, a déclaré que le festival présentera environ 500 artistes aux groupes locaux et nationaux tels que Gugun Blue Jazz, Berry Likumahua, Adrian Adiotomo ainsi que Sarah et Nissan de la communauté Blues Indonesia.
Dan ini kami akan menampilkan ada kurang lebih 500 artis atau band di skala lokal.
Nous présenterons environ 500 artistes aux groupes locaux, nationaux et internationaux. Et nos principales stars de claquettes sont Gugun Blues Jazz, Berry Likumahua et Adrian Adiotomo des États-Unis et aussi Sarah Enisan de la communauté Blues Indonesia. En plus de profiter de la musique blues en camping, le festival de musique Java Blues Airwood organise également des autres événements intéressants, notamment des séances de partage, des sessions de jam, des stands de produits d'économie créative, des feux de joie et des grillades en plein air. Le prix du billet est de 100 000 roupies pour les spectateurs et 250 000 roupies pour les nuitées partante dans la zone d'autorité de l'agence de l'autorité de Borobudur de Luano Glamping. Auparavant, pour promouvoir cet événement de musique blues, des pré-événements étaient organisés sous forme de mini-concerts à Yogyakarta, Purwokerto et Purworejo, de conférences de presse, de campagnes de sensibilisation au tourisme et de la socialisation de Sabta Pesona, ou sept éléments des produits touristiques indonésiens, tels que sécurité, ordre, propreté, fraîcheur, beauté, convivialité et souvenirs. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
mungkin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita, walau sejalan. Cinta ini tak terhapus meski jendela waktu berbeda. Terlalu berat ku langkahkan kaki, semakin lama
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson qui est célèbre des années 90, à savoir Aldarisma. Le nom d'Aldarisma est connu depuis qu'elle a sorti une chanson intitulée Aku Tak Biasa. Cette chanson était le premier single de son premier album portant le même titre, Aku Tak Biasa, sorti en 1998. Aku Tak Biasa, créé par Rudy Loho, a réussi à remporter à Alda le prix de la musique indonésienne de la meilleure artiste pop solo féminine. Le succès et la popularité de cette chanson ont incité d'autres chanteurs indonésiens à vouloir la ramener avec la dernière version. L'une des chanteuses qui ont encore chanté cette chanson était Syahrini en 2010. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Aku Tak Biasa, chantée par Aldarisma. Bonne écoute!
Selamanya darimu. pagi. Tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk ibu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelamu. Aku tak biasa. Aku tak biasa.
Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.